Et maintenant, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Le message que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est un message que j'ai déjà apporté. J'ai déjà apporté jeudi soir, il y a une semaine et demie, à peu près 2 semaines. Un message que M. Go m'a demandé de reprendre avec vous pendant un culte le matin, et c'était l'occasion ce matin, de reprendre avec d'autres aussi le dimanche après-midi à la rentrée. C'est un message, s'il est pris au sérieux, il peut vous garder de bien des maux, de bien des problèmes. Mais c'est aussi un message, si vous pensez qu'il est secondaire, s'il n'est pas utile d'y prêter attention, si vous dites c'est juste une réflexion, c'est juste une idée, c'est quelque chose qu'on peut discuter, alors vous vous mettez en danger. Et si vous pratiquez les choses dont on va parler ce matin, si vous dites c'est pas grave, je crains qu'il y ait un grand danger sur votre vie. Alors je voudrais vraiment que vous priez avec moi maintenant pour que le Seigneur puisse vous aider à chacun et m'aider à moi à vraiment réaliser que c'est important. On va dénoncer des choses mauvaises et je crois qu'il y a un combat quand on rentre dans ce type de message. Alors vraiment, prions pour que tous on prenne au sérieux cette pensée qui va être partagée. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant celui qui a toute autorité sur tout l'univers. Personne n'est plus grand que toi. Personne n'est aussi puissant que toi. Personne ne connaît les choses comme toi, Seigneur. Alors nous nous tournons vers toi encore pour que dans nos cœurs, tu puisses graver la vérité ce matin. Qu'elle ne puisse pas passer et repartir, Seigneur, mais qu'elle puisse demeurer dans notre cœur, comme on l'a lu tout à l'heure quant à la présentation des Vaudis. Vraiment que ces paroles soient liées à notre cou, que ces paroles soient sur notre cœur, qu'on les considère comme une lumière sur notre sentier pour chasser les ténèbres et pour que vraiment nous puissions marcher en droiture d'une manière qui te soit digne, qui te soit possible d'approuver, Seigneur. Merci encore pour ton secours, pour ma part, pour apporter ce message et pour le faire avec toute ton onction, toute ton approbation et toute ton efficacité. Que ton nom soit glorifié. Merci encore. Amen. Amen. Je vais parler ce matin de l'astrologie et la voyance. L'astrologie et la voyance, vous allez dire, c'est tellement simple, Jérémy. On le sait tous, on est au courant. Eh bien non. J'ai vérifié ici même à plusieurs reprises, lors de réunions, lors de prières, lors d'annonces, que des personnes ne comprennent pas et n'ont pas compris, peut-être parce qu'on l'a pas assez dit, que je l'ai pas assez dit, peut-être parce qu'on n'a pas entendu, on n'a pas fait attention, mais que tout ce qui est astrologie, voyance, guérisseur et toutes les choses qui sont décrites dans la parole de Dieu sont des choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu, mais aussi des choses dangereuses pour notre vie. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Et quand ça porte le nom voyance, quand ça porte le nom astrologie, numérologue, etc., etc., on est au courant, on fait attention, mais des fois, ça porte le nom de prophète. Des fois, ça porte le nom de guérisseur, de, vous voyez, des bons noms, des noms qui font pas peur, des noms qui sont plutôt rassurants. Mais là encore, il nous faut tout le discernement du Seigneur pour remarquer le piège qu'il y a derrière. L'astrologie, je mets une définition sur ce mot, je crois que c'est important. L'astrologie est un ensemble de traditions et de croyances qui soutient que la position des planètes dans le système solaire apporte des informations permettant d'analyser ou de prédire des événements humains, collectifs ou individuels. L'astrologie, c'est regarder les étoiles, regarder les planètes, essayer d'en tirer des présages, des paroles, des distinctions, des choses comme cela. Et ça s'appelle l'astrologie. La deuxième définition, c'est la voyance. La voyance, c'est la capacité hypothétique à percevoir une information dans des objets en n'utilisant pas les 5 sens humains. Quand on essaye de comprendre des choses au travers des objets avec les choses qui sont données à l'être humain, ça s'appelle de la science, ça s'appelle de la géologie, ça s'appelle, vous comprenez ce que je veux dire? Si je regarde, je dis c'est du bois, alors le bois il peut résister, etc. Ça c'est de la science, c'est pas mauvais. Mais la voyance, c'est dire, je touche du bois, c'est toutes ces superstitions qui est derrière, essayer de tirer des présages dans une mare de thé, dans des choses comme cela. C'est toutes ces pratiques, essayer de tirer des prédictions, des prophéties, des choses pour m'assurer un avenir meilleur ou pour faire attention. C'est essayer de tirer des hypothèses dans ces choses-là. La personne qui aurait cette capacité est généralement appelée voyant ou voyante et propose des consultations en attente de révélations afin de connaître ou de préparer leur avenir. Vous savez, les voyantes, aussi quand on lit dans la main, etc., on vous dit, tiens, est-ce que je peux lire dans votre main, etc., je vais vous dire votre avenir. Tout ça, ça s'appelle la voyance. Pour commencer ce message, Après avoir donné ces définitions, je veux poser les bonnes bases. Que dit la Bible sur Dieu ? Parce que je crois qu'il est important de comprendre que Dieu, lui, il sait tout. S'il y en a un qui connaît tout sur tout, c'est bien Dieu. Alors ouvrez avec moi dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 139 et verset 1er. Psaume chapitre 139, verset 1er. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Amen. Ces textes, juste cette lecture dans le livre des Psaumes, on va en lire une autre dans le livre d'Ésaïe, mais dans le livre des Psaumes, on voit que Dieu sait tout. Dieu est partout et Dieu voit tout. Il sait quand je me couche, il sait quand je me lève, il sait quand je vais parler et il sait même ce que je vais dire avant que ça sorte de ma bouche et que ce soit sur ma langue. Il connaît tout devant, derrière, autour de moi, il a sa main sur moi. Sa science est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça, c'est ce qu'il commence à dire. Puis il continue, il dit même « quand j'étais dans le ventre de ma maman ». Quand Évody était dans le ventre de Lauriane, Dieu la voyait alors qu'elle était informe. Qui aurait pu deviner que ce petit être était d'abord informe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a que Dieu pour savoir ça. Et David n'avait pas encore l'échographie. Hein, quand il a écrit ce psaume, l'échographie n'existait pas. Et il va dire ceci, « Tu me voyais déjà quand j'étais informe dans le ventre de la maman. » Dieu savait, Dieu a dit par David, sans qu'il le sache, qu'on est d'abord informe. On a pas de forme. Vous avez déjà vu un fœtus quand il est dans il y a un embryon, parfois, puis après le fœtus dans le ventre. C'est beau, mais ça fait peur des fois. Hein. Si vous avez vu ça en 3D, les images qu'on fait maintenant, hein, c'est beau, mais ça se forme petit à petit. Puis après il y a les membres qui poussent, etc. Et Dieu voit déjà. Et il est dit, j'ai regardé dans l'hébreu, les mots exprès dans les mots strong. Il est dit que Dieu connaissait tous les jours et qu'ils étaient déjà inscrits dans son livre. Tous les jours de ce bébé qui allait grandir étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu. Et dans Ésaïe 46, prenez-le encore avec moi, Ésaïe 46, verset 10, je lis sur mes notes puisque j'ai la même traduction que la plupart ont. Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu sait les choses avant, il annonce et ça arrive comme il l'a dit. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de 2500 prophéties et il y en a plus de 2500 qui sont déjà accomplies. Il en reste quelques-unes qui restent à accomplir, mais lorsque Dieu parle, c'est vrai et ça arrive. La science de Dieu est impénétrable, elle est inégalable. J'ai marqué, on ne peut imaginer toute la connaissance qu'il a et nous ne pouvons au mieux que la définir par le mot infini. Le seul moyen de définir la connaissance que Dieu a pour moi, c'est le mot infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Cela veut dire que notre existence sur Terre n'est pas un hasard. Peut-être vous dire pourquoi je suis là, vous dites dans votre cœur, mais pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, etc. Parce que Dieu l'a bien voulu. Il a permis que vous soyez là. Oui, il n'y a pas de hasard. Dieu n'est pas surpris par une naissance. Mince, j'avais pas prévu assez de place sur la terre pour cette personne. Non, Dieu n'est pas surpris par une naissance. Si on est là ce matin, c'est encore que Dieu l'a permis. Peut-être que Dieu nous a gardés sur la route, on ne l'a même pas remarqué. Dieu a permis qu'on soit là ce matin. Peut-être quelqu'un a dit, allez, je vais aller dans cette église, j'ai entendu, ça fait des mois que je voulais venir, je vais y aller aujourd'hui. Sûrement que le Seigneur voulait que vous entendiez cela, ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin. Dieu n'est pas surpris par les choses qui arrivent. Et si Dieu arrive, la Bible, si Dieu prévoit les choses, si Dieu sait toutes choses, il nous dit aussi dans sa parole que s'il sait toutes choses, il veut aussi bénir les hommes. Dieu, il prévoit les choses et il a tout arrangé pour qu'on soit béni. Seulement, l'homme ne veut pas de Dieu. Et du coup, il est privé de la bénédiction de Dieu. Toute la Bible nous raconte la valeur qu'a l'être humain à ses yeux. Je veux que vous sachiez ce matin que si la suite va être peut-être un petit peu dérangeante pour certains, c'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu veut votre bien. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous a tissé dans le ventre de votre maman pour que vous soyez, eh bien, un être humain normal. Que vous puissiez venir, que vous puissiez entendre ses paroles. Il veut vous bénir. Dieu, puisqu'il veut nous bénir, nous a avertis dans la Bible sur l'astrologie, la voyance, toutes ces choses occultes. Dieu veut nous bénir et il nous dit dans Deutéronome 18, chapitre 10, là encore, je vous demande de suivre avec moi, c'est trop important. Peut-être je lirai moi-même les autres choses, mais au moins que vous puissiez souligner ça, marquer ça dans votre Bible, mettre un marque-page pour y revenir s'il y en a besoin, mais que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. J'ai déjà apporté ça, hein, un message sur toutes ces choses, l'occultisme, etc., un jeudi soir, je crois que j'en ai parlé un dimanche après-midi. Mais dernièrement encore, un jeûne et prière, je parle des signes astrologiques et je dis que je vais prêcher le soir sur ça et quelqu'un me dit « Ah bon, c'est mauvais ? Ah bon, c'est mauvais les signes astrologiques et tout ?» Alors je dis « Il faut absolument que j'en parle, quoi. Il faut absolument. » Deutéronome, chapitre 18, verset 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » C'est assez rare quand même, heureusement. Avant, c'était coutume. Personne qui se livre à la divination, personne qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Je vais le relire, ce verset 10, dans la version peut-être que vous avez. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dieu est clair. Il dit qu'il n'y ait pas d'astrologue chez toi, qu'il n'y ait pas de devin, qu'il n'y ait pas toutes ces choses, des gens qui disent la bonne aventure, qui font tout ça, car ils sont en abomination à l'Éternel. Peut-être vous dites, mais moi je suis pas astrologue, mais je vais voir un astrologue. C'est pareil. Tous ceux qui ont contact avec ces choses et qui le font sciemment encore plus, eh bien ils sont en abomination à l'Éternel. Et pourtant, alors que c'est clair, alors qu'en France, il y a la Bible, elle est répandue, alors que dans le monde, encore plus occidental, la Bible est répandue et traduite et distribuée, les croyances associées à l'astrologie restent populaires. Je lisais un article qui disait « Un sondage mené en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne indique qu'une personne sur quatre, 25% du monde, présent en Amérique du Nord et en Angleterre, pense que la position des étoiles et des planètes peut affecter la vie d'une personne. Une personne sur quatre, 25% des gens, pensent que s'ils sont nés à tel mois dans l'année qu'ils sont de tel signe, c'est une incidence sur leur vie. Je l'ai vulgarisé. Mais c'est ça. Quel est ton signe? En vrai, c'est ça l'astrologie. Ah, mais t'es de tel caractère. Oh, ils ont un caractère bien trempé, hein. Oh, ils sont tout doux. Oh, ils sont ceci, cela. Mais ça, c'est l'astrologie, ça. Toutes ces choses, Dieu les a en abomination, il a horreur de ces choses. Après, je ne veux pas condamner, peut-être quelqu'un est nouveau, il arrive et il entend, voilà, l'astrologie c'est mauvais, il se dit, mais attends, on me tue là ce matin. Je ne dis pas ça pour condamner les gens, je dis ça pour prévenir les gens, parce que Dieu nous le demande. Et quand on regarde les statistiques, 75% des demandes de voyance sont pour des problèmes sentimentaux. 3 personnes sur 4 qui consultent des voyants le font à cause de problèmes sentimentaux. Donc si vous êtes là ce matin et que vous avez consulté ces genres de personnes, peut-être c'est parce que vous avez un problème dans votre vie. Vous avez une souffrance dans votre cœur. Vous passez par un moment difficile, un moment où dans votre vie vous avez un gros problème. 75, c'est les problèmes sentimentaux. Et les 25% suivants, c'est d'autres problèmes, mais c'est des problèmes quand même. Et peut-être que quelqu'un ce matin dit « Mais moi je suis allé parce que j'ai des problèmes ». Je voudrais vous rappeler, Dieu sait tout, Dieu connaît vos problèmes, et il a la solution à vos problèmes. Donc je suis pas là pour condamner les gens, mais pour éveiller chacun d'entre nous à ce genre de choses, parce que la parole le dit et nous le demande. Le commerce de la voyance, on estime que 21% des femmes au monde Non, en France, pardon. 21% des femmes en France et 9% des hommes en France ont déjà rencontré au moins une fois un ou une voyante. Je ne sais pas si vous imaginez. 2 femmes sur 10 et 1 homme à peu près sur 10 a déjà consulté ou parlé à une voyante ou un voyant. J'ai demandé à Monsieur Gau, j'en ai parlé ce matin ou hier soir, il m'a dit « Mais moi, Jérémy, j'y ai touché. Moi, j'avais des amis voyants. Dans la maison, j'avais des bruits tout le temps. J'avais toutes sortes de choses parce qu'on aimait ça, la voyance. Ça, c'était courant chez nous. » Il m'a dit un jour, on était à table et j'avais un ami qui venait régulièrement l'inviter. Il était voyant. Et il a dit « Je vais toucher ta jambe. » Il a posé la main sur la jambe. Et il a dit « Maintenant, lève-toi et fais le tour de la table. » Monsieur Gau s'est levé et quand il a commencé à marcher, il est tombé. Il est tombé d'un coup dans les pommes. Pour vous dire qu'il y a une puissance derrière. C'est pas des choses avec quoi on rigole. Et M. Hugo, il a dit, mais dès que je me suis converti, Dieu a balayé tout ça, j'ai compris, j'ai lu, et j'ai arrêté tout, et Dieu m'a gardé. Et il n'a plus de soucis. Il n'a plus jamais eu aucun souci, juste par sa conversion. Juste par sa conversion. Mais c'est des choses réelles. 21% des femmes, 9% des hommes en France. Le chiffre d'affaires annuel global des quelques 100 000 professionnels au monde de la voyance et de l'occultisme est évalué à 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros par an, ce qui représente 15 millions de consultations par an. Il existe des consultations par téléphone, SMS, email, webcam, messagerie instantanée. Aujourd'hui, la voyance est partout. Vous allez vous regarder la télé à 9h du soir, je ne parle pas de minuit, 1h du matin, à 9h, vous voulez savoir quand est-ce que vous aurez votre premier enfant, tapez, envoyez un SMS. Vous l'avez tout vu. Mais qu'est-ce que c'est comme folie? Imaginez-vous une petite adote de 12 ans qui envoie le texto. Quand est-ce que je vais avoir mon premier enfant? Dans 1 an. Ah, ben il faut que j'aille avec un garçon. On en rigole, mais c'est hyper grave. C'est grave comme c'est. C'est terrible. Je prie que mes enfants, qu'Evody, que nos enfants, ils aient reçu l'enseignement pour se garder de ces choses. Parce que c'est diabolique. C'est diabolique et dangereux. Tapez un tel, vous saurez quand sera votre rapport. Tapez ça, etc. Vous saurez si votre petit ami vous trompe. Mais c'est de la folie, de la folie. Il nous faut veiller à ça. On croit que oh, la voyance, c'est quelque chose de très loin, en Afrique ou dans des pays où il y a la sorcellerie, tout ça. En France, plusieurs fois par mois, il y a des salons de la voyance, de l'occultisme, de la divination et des arts magiques. Tous les mois, plusieurs fois par mois, dans différentes villes, il y a des salons où les voyants, les magiciens, les gens animés par le diable, parce qu'on l'a vu, ils sont en abomination à l'Éternel, c'est pas de Dieu. Ils se réunissent, ils font des réunions, et ça, c'est les choses officielles que l'État approuve, mais tout ce qui se passe derrière, on ne le sait pas. Et eux, ils en font des réunions, et ils assistent à toutes les réunions. Eux, ils prient, mais ils ne prient pas Jésus, et ils prient contre l'Église. Est-ce qu'on le comprend, ça? Il y a vraiment un combat qui est là, on ne va pas se mettre à sortir les épées. Quand il est chanté « Dieu a une armée », ce n'est pas l'armée de guerre, Dieu a une armée. S'il a une armée de troupeaux, une armée de buffles, une armée de lions, une armée de chèvres, une armée de poules, Dieu a une armée d'animaux, c'est écrit dans la Bible. Les animaux sont comme une armée devant lui, et les hommes sont une armée dans le sens de multitude. Et Dieu a une armée, une multitude, qui sont des enfants, et qui se tiennent, et il y a plusieurs comparaisons, comme celle du soldat, certes, c'est vrai. Mais on ne va pas taper, on ne va pas combattre, on ne va pas brûler les sorcières. C'est ce que certains ont fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, on va la méditer, on va la mettre en pratique pour qu'on ait une efficacité contre ces personnes. Rien à craindre pour nous, et peut-être qu'on puisse en sauver quelques-uns par l'efficacité de la lumière, parce que je crois que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Passer de Nice à Sofia Antipolis, c'est pas loin, hein, je suis né en Antibes. La société Cosmospace emploie sur son site 130 médiums, astrologues ou numérologues qui consultent par téléphone, avec 130 000 clients fidèles par an. Par an, 130 000 personnes différentes consultent et fidèlement. Elle revendique une place de leader en Europe. En France, on a les leaders de la voyance, de l'occultisme. Et une croissance à 2 chiffres par an, c'est-à-dire plus de 10% de croissance par an. Les gens ont des problèmes, ils ont besoin d'une réponse. Et nous, on a la plus grande réponse. Une bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais le diable, il fait une croissance de 10% au moins. En cabinet, sur Internet, par téléphone ou SMS, des centaines de voyants ou prétendus tels travaillent dans les Alpes-Maritimes. Jusqu'au 1er mars 1994, très peu de personnes le savent, moi je ne le savais pas, jusqu'au 1er mars 1994, la voyance en France était considérée comme un délit au niveau de la loi. Il y avait un texte de loi qui disait que l'occultisme, la voyance, toutes ces choses, c'était un délit. Et si je portais plainte contre quelqu'un qui avait pratiqué ça, j'avais raison, parce qu'il y avait un texte. Mais en 94, le 1er mars, toute une partie de texte de loi a été enlevée, et tout ce qui est voyance, etc., a pu être légalisé. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Ça arrive. Je voudrais faire deux aspects, montrer qu'il y a deux aspects dans ces choses. La première, il y a une manipulation. Il y a la catégorie, je vais dissocier en deux parties. Il y a une manière de pratiquer l'occultisme, etc., la voyance, l'astrologie, c'est ce qu'on appelle les charlatans. Hein, ça résume bien le mot. Charlatans, c'est-à-dire des gens qui trompent, ils manipulent, ils mentent. Il y a toute cette partie-là, et c'est vrai, ils en veulent à votre argent, en vrai. C'est ça le but premier, ils veulent de l'argent, et ils font semblant. Ils vous manipulent, etc. Mais il y a aussi une deuxième partie, qui est toujours liée à l'autre. Certains ne sont pas au courant, d'autres sont au courant. Il y a une partie où c'est plus simplement du mensonge, de la manipulation, etc. C'est diabolique. Et des fois, ils peuvent dire des prédictions qui paraissent vraies, parce que le diable sait certaines choses. Vous le savez ? Il est appelé l'accusateur des frères, et il les accuse jour et nuit. S'il les accuse, c'est qu'il est au courant de ce qu'ils ont fait. C'est qui l'accuse ? Les pécheurs ? Ou les croyants ? Les croyants. Le diable vous accuse, m'accuse, devant Dieu, jour et nuit. Et heureusement qu'en même temps, j'ai un avocat, Jésus, qui jour et nuit défend ma cause. Mais le diable est au courant de certaines choses. Et certains, ils sont passés ce cap, on commence toujours par l'argent, par la manipulation, etc. Mais au bout d'un moment, on a beau être sincère, etc. Au bout d'un moment, on bascule dans toute cette chose où il peut se passer des choses vraies, qui paraissent bonnes. Mais au final, derrière, il y a un poison, il y a un piège, il y a quelque chose qui vous attrape et qui vous mange. C'est tout le côté diabolique et démoniaque. Cet aspect est toujours caché, occulte et destructeur. Premièrement, donc, par rapport à l'illusion, au mensonge et à tromperie, j'ai cherché un petit peu sur Internet pour parler bien d'un sujet actuel. Il est écrit des conseils pour aller voir un voyant. Je vous le lis et je vous dis comment c'est fou. L'univers de la voyance regroupe un bon nombre de professionnels, mais aussi de charlatans. Qui n'a jamais été tenté de consulter un voyant ? Si vous avez choisi d'en consulter un, n'attendez pas de lui du sensationnel, mais ayez un état d'esprit confiant. Il commencera sa consultation par votre passé ou votre présent. Faites-lui comprendre s'il est sur la bonne voie en lui dévoilant vos impressions du moment. C'est ainsi qu'il pourra au mieux exprimer et déployer au maximum ses capacités. Ça veut dire, en clair, déjà mettez votre confiance dans cet homme. La Bible dit « maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Même le meilleur des prophètes ne devait pas attirer la confiance de l'homme. La confiance doit toujours aller vers Dieu. D'accord ? Si un pasteur tombe, eh bien c'est qu'un pasteur. Dieu ne tombe pas. C'est à Dieu qu'il faut s'accrocher. C'est à sa parole, pas aux hommes. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Je veux faire la contrebalance. Heureusement qu'on a des frères et des sœurs qui prient pour nous. Heureusement que vous êtes là pour m'encourager, pour m'aider. S'il n'y avait pas eu d'église, d'enfants de Dieu, une famille de Dieu, je n'aurais pas pu être sauvé. Puisque personne n'aurait prié, personne n'aurait prêché, personne n'aurait été utile devant Dieu pour mon salut. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne dis pas ça. Mais la confiance qu'on doit apporter, elle doit toujours être à Dieu. Et puis après, il dit, voilà, il va commencer par votre passé, votre présent, il va dire certaines choses. Et quand vous sentez que ça vient, qu'il répond à votre question, alors vous lui dites, vous lui faites comprendre. En clair, ben, dites-lui ce que vous attendez, quoi. Jeudi, j'ai fait l'expérience, le jeudi où j'ai apporté ça, d'un coup, en plein milieu du message, j'ai levé les yeux comme ça au ciel. Et tout le monde a levé les yeux au ciel. Parce qu'il se demandait, mais qu'est-ce qu'il regarde Jérémy ? Si d'un coup j'avais levé comme ça, vous auriez regardé qu'est-ce qui se passe. Et il y a une sorte de suggestion dans les gestes qu'on peut avoir. Et il y en a qui sont très très forts pour deviner certaines choses par la manipulation. Et il y a cette partie qui est vraie. Mais la deuxième partie est toujours sous-jacente. La deuxième partie est aussi importante à comprendre. Pareil, des annonces. Quelqu'un a déduit ça de la voyance. Au final, on prend le mal pour le bien, et le bien pour le mal. C'était quelqu'un qui pratiquait la voyance, c'est-à-dire qui le faisait pour d'autres. Elle dit, le résultat que j'ai constaté après avoir quitté la voyance, c'est que ceux qui venaient vers moi confondaient le mal et le prenaient pour le bien, et le bien le prenaient pour le mal. Un inversement de notre compréhension, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, qui ne discerneront plus leur droite de la gauche, le mal du bien ou le bien du mal. L'annonce, pour vous expliquer comme quoi ça peut être tourné d'une manière séduisante. Une voyante à Montpellier sérieuse vous délivre ses visions éclairées. Je relis. Une voyante à Montpellier sérieuse vous délivre ses visions éclairées. Tous des mots bibliques. Sérieuse, délivrance, vision, éclairée, lumière. C'est la parole qui est la lumière. Et beaucoup de personnes croient que la voyance, les cartes, etc., c'est de Dieu. C'est un don que Dieu a apporté à un homme. On va y venir. Voyante spirituelle, une autre annonce, opère toutes sortes de délivrances, de guérisons, qui se font par des méthodes saines et très efficaces. Vous ne serez pas déçus par son savoir-faire. Vous voyez les mots ? Voyante spirituelle. Vous inquiétez, ah, c'est sûr que c'est spirituel, mais pas du bon côté. Mais le fait de s'appeler spirituel, ça reprend un peu ce que Paul dit dans la Bible. Il y a les naturels, il y a les charnels, et il y a les spirituels. Elle, voyante spirituelle, opère toutes sortes de délivrances, hein, c'est bien la délivrance. Les guérisons se font par des méthodes saines et très efficaces. Hein. On ne sera pas déçus. Ouais. J'aimerais vous lire le témoignage d'une ex-voyante, donc une personne qui a quitté la voyance, qui pratiquait, qui n'est pas encore convertie, qui n'est pas convertie. Regardez ce qu'elle dit. Et quand on lit le reste de ses phrases, on sait qu'elle n'est pas convertie. Cher lecteur, si vous allez consulter une voyante, il y a toujours quelques risques. Moi, j'enlève le quelque. Elle donne 7 conseils, elle donne 7 choses, elle avertit sur 7 choses. Premièrement, vous pouvez tomber sur des personnes malhonnêtes qui vont abuser de votre argent. C'est le moins grave de tout, ça. Deuxièmement, certaines voyantes peuvent exercer une pression psychologique sur votre âme. Troisièmement, vous allez au-devant de gros dangers pour votre équilibre psychique. Quatrièmement, vous allez perdre toute votre liberté de décision et serez dépendant psychologiquement de la voyante que vous allez rencontrer ou du voyant et qui aura pouvoir sur votre âme. Elle n'est pas convertie. Écoutez la suite. Cinquièmement, vous courez le risque d'être possédé par un esprit mauvais. Elle n'est pas convertie. Sixièmement, vous créez un lien avec Satan qui ne peut être rompu sans l'aide de Dieu. Elle n'est pas convertie. Et septièmement, vous attirez la colère de Dieu sur vous. Et si elle n'est pas convertie, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle doit vivre pour écrire ces choses-là. Cette personne pratiquait, les gens venaient vers elle, résultat, elle dit tout ça. Vous risquez d'être possédé. Vous vous faites un lien avec Satan qui ne peut pas être rompu sans l'aide de Dieu. Vous attirez la colère de Dieu sur vous. Il y a une dépendance psychologique sur les gens, etc. Quelque chose de fou. Un voyant, et là je m'arrête, je veux vraiment vous avertir parce que j'ai connu des personnes qui auraient eu besoin de ça. Un voyant, un astrologue, un guérisseur, un magnétiseur, je ne sais pas tous les mots qu'il faudrait dire, ce n'est pas un prophète. Ne confondez pas ça avec un prophète de l'Ancien Testament. Un prophète, c'est celui qui transmet une parole que Dieu lui a dit de transmettre. Un vrai prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Point. Il dit ce que Dieu lui dit de dire. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Mais il ne fait rien lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit un pouvoir magique et qui l'utilise comme il veut. Un prophète dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu dans ses paroles et dans ses actions. Il ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Je vous lis juste le texte. Jérémie, chapitre 1, verset 5. On est tous d'accord que Jérémie était prophète. Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Mais on va voir que ce n'est pas un pouvoir qu'il a reçu. « Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. » L'éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Il y a un futur qui est très important. Il y a quelque chose qui dit que pour l'instant, il n'a rien de tout ça. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il va devoir dire. Mais au moment opportun, quand il devra le faire ou quand il devra le dire, il va recevoir de Dieu quelque chose qu'il devra accomplir. Mais au goutte à goutte, au fur et à mesure, il recevra quelque chose de la part de Dieu et il ne sera qu'un vase communicant. Vous comprenez ? Qu'un vase communicant qui permettra aux hommes d'entendre le message de Dieu. Il a été choisi pour ce travail. Mais en soi, il n'a pas reçu un pouvoir magique. D'accord ? Il ne faut pas confondre prophète, magie. guérison, magie, etc. Il n'y a rien de magique avec Dieu. C'est la foi qui est récompensée par Dieu. Point. C'est sa puissance. Dieu n'a pas besoin de stockage, d'endroit pour stocker sa puissance. Allez, je vais en mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Chacun, on doit être soumis à Dieu pour que Dieu puisse agir au travers de nous et confirmer sa parole que nous porterons et que nous transmettrons. L'interprétation des rêves. Ça aussi, je voudrais le dire. Plusieurs fois, on vient me voir, « Pasteur, j'ai fait tel rêve, qu'est-ce que ça veut dire ?» Quand est-ce que dans la Bible, vous avez vu une personne qui est en relation avec Dieu demander à quelqu'un d'autre l'interprétation d'un rêve? Ça n'existe pas. Et en Afrique, on vous enseigne que les rêves, tous vos rêves sont inspirés et veulent dire quelque chose. C'est faux. La Bible dit l'inverse. La Bible dit que la multitude des rêves vient de la multitude des activités qu'on a dans la journée. Et le cerveau trie les informations et fait son travail. Et quelquefois, Dieu peut nous parler au travers d'un songe ou d'un rêve. Mais si vous recevez un songe ou un rêve, le Seigneur va vous donner l'interprétation du songe ou du rêve. C'est sûr. Dans la Bible, on voit personne. Au fait, je suis pas au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a dit ça. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Toi, t'es un homme de Dieu, tu reçois mieux. Non. C'est les païens qui demandent aux chrétiens. C'est les païens qui demandent aux hommes de Dieu dans la Bible. Mais en soi. Et si quelqu'un ne comprend pas la vision tout de suite? Plus tard, il la reçoit. Mais lui-même, Pierre, il est sur le haut et tout. Mange et tue. Non. Il reçoit une vision, il reçoit quelque chose. Et il ne comprend pas sur le coup. Puis d'un coup, ding-dong, quelqu'un à la sonnette. Voilà, je viens chercher quelqu'un qui s'appelle Simon-Pierre. Est-ce que c'est bien là qu'il habite? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Un païen est venu chercher l'apôtre Pierre qui ne devait pas, en tant que juif, rentrer chez un païen. Mais Dieu lui a dit, ne regarde pas impur ce que je considère comme pur. C'était ça le message. Et il ne comprenait pas sur le moment, mais il a eu l'interprétation après. Et c'est grave, peut-être certains ne seront pas d'accord, mais moi je crois que dans toute la Bible, et je vous demande de me le dire si je me trompe, si vous trouvez une fois un homme de Dieu qui ne comprend pas et qui va demander à un autre homme de Dieu dans la Bible l'interprétation d'un songe ou d'un rêve, alors dites-le moi, mais je crois que ce n'est pas de Dieu. Dieu, il parle et il s'est parlé du début à la fin. Il s'est parlé du début à la fin. L'interview, maintenant, d'une ex-voyante convertie. Cette fois-ci, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Pourquoi dites-vous que cette puissance vient de Satan? Elle répond d'abord, l'angoisse de ceux qui venaient me consulter en est une preuve. L'angoisse ne vient pas de Dieu, puisqu'au contraire, il apporte la paix. L'homme qui vit en communion avec Dieu n'est pas angoissé face au futur, car il se confie entièrement à son Sauveur et Maître, Jésus-Christ. Ensuite, cette soif toujours grandissante de connaître le lendemain. Une grande partie de ma clientèle ne se contentait pas d'une visite chez moi. C'était la visite chez une tireuse de cartes, chez un voyant, et même chez un autre astrologue pour pouvoir comparer les prédictions. Le problème de l'insatisfaction était toujours là. Et l'insatisfaction aussi ne vient pas de Dieu. Par-dessus tout, la dépendance psychologique de ceux qui me consultaient démontre à quel point l'astrologie est néfaste. Que voulez-vous dire exactement par dépendance psychologique? Je veux dire que, pour ceux qui me consultaient, à quoi servait-il de faire des efforts, au bout d'un moment, puisque tout était prévu d'avance? Bientôt, le laisser-aller prenait le dessus, et je voyais ces personnes torturées et déchirées, parce que finalement, aucun problème n'était résolu. À l'avance, ces personnes souffraient et s'apitoyaient sur leur sort au sujet d'épreuves qu'ils n'avaient pas encore subies. Puisqu'on leur avait dit « Oh, il va vous arriver telle catastrophe », déjà ils souffraient avant que ça arrive. Moi-même, à cette époque, je devais chaque jour, devant chaque événement, repasser de mémoire ma carte du ciel afin d'évaluer mes décisions. J'étais esclave de mes prédictions et de mes interprétations. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de sonder le futur, car je comprends toute la puissance de la foi à un niveau pratique. Les deux versets de la Bible que je veux vous citer résonnent dans mon cœur comme une réponse à donner à tous ceux qui se bousculent dans les bureaux d'astrologues ou de diseuses de bonne aventure. Les versets sont « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» et « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 26 et 34. Voilà cette femme, ce qu'elle a remarqué chez des gens. Et maintenant qu'elle est au Seigneur, elle a compris la différence, elle a ouvert les yeux et elle donne même des versets comme conseil. C'est mieux quand même. C'est mieux plutôt que dire vous allez avoir telle catastrophe, il va vous arriver ci, faites attention, je vois un mauvais présage, ou même oh il va arriver quelque chose de bien, peu importe. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon envers nous? On n'est pas des brebis et lui le berger? Alors il prendra soin de nous. Je vous lis maintenant des textes dans Daniel. Dans Daniel, on voit l'histoire de Nebuchadnezzar. Hein, vous voyez ce roi qui a fait un rêve. Et il veut l'interprétation, il ne comprend pas. Lui ne connaît pas Dieu. Et il demande à des astrologues, à des devins, à des magiciens, l'explication. Daniel 2, verset 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité, je voudrais connaître le songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Je saute quelques versets. Le roi, il va dire, « Je ne vous donnerai pas mon songe. » Comme ça, je suis sûr que si vous me donnez une interprétation, elle est vraiment vraie. Dites, devinez quel est mon songe. Vous êtes astrologue, vous êtes magicien. Allez, on teste. Dites-moi, je ne vous dis rien. Alors, ils vont dire, mais c'est pas possible. On peut pas. Hein? Et il dit, mais non, dis-nous le songe. Et il recommence. Il dit, non, je sais que vous voulez gagner du temps, tout ça, etc. Dites-moi la vérité, sinon je vous tue tous. Il est en colère, hein, le roi. On voit un peu plus loin. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Les magiciens, les astrologues, les devins de l'époque confessent que sur la terre, personne ne pouvait deviner ça. Un rêve, il n'y a que Dieu qui le connaît, il n'y a que Dieu qui puisse l'entendre. Un rêve comme ça qui vient de Dieu, je parle. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Quand il est dit les dieux, je remets dans l'ordre, ils ne connaissent pas Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Daniel 2, 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisque quand Daniel apprend que le roi veut tuer tous les sages, tous les devins, tout ça parce qu'il est en colère, Daniel y prie. Il dit, Seigneur, écoute, tu vois la menace qui est sur moi, ma famille, sur les autres aussi. S'il te plaît, si tu le veux bien, révèle-moi le rêve et la signification. Le roi prit la parole et dit à Daniel, verset 26, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Daniel confesse que même lui, aucun homme sur la terre, ne peut savoir ce que le roi avait vécu. Mais il y a dans les cieux un Dieu, alors là il parle au roi, il faut comprendre son langage, qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. On saute un verset. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Il confesse qu'il n'a pas de pouvoir personnel, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Verset 46. Il donne toute l'explication et voilà ce qui se passe. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Juste après, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Amen. » Même Daniel va confesser qu'il n'a aucun pouvoir pour interpréter. J'aurais pu prendre l'histoire de Joseph. Joseph va confesser qu'il n'a aucun pouvoir personnel pour révéler les songes et que c'est Dieu, quand il le lui demande, qu'il les lui révèle dans sa grâce. Dieu, en conclusion, est le meilleur pour nous guider et c'est gratuit. Alléluia! Amen. C'est gratuit! On n'a pas besoin d'aller payer quelque part, d'aller payer un pasteur, d'aller payer un prophète, d'aller payer un voyant. C'est gratuit. Dieu personnellement se révèle. C'est ça, l'action du Saint-Esprit, la dispensation de l'Église. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens, les vieillards, etc. auront des songes, des prophéties, etc. On est tous concernés. Dieu veut nous parler directement. En conclusion, que faire si j'ai touché à la voyance, à l'astrologie, parce qu'il faut en arriver là. Si j'y ai touché, il ne faut pas laisser les gens, c'est pas bien, au revoir. Si j'ai touché, qu'est-ce que je dois faire? si j'ai eu contact à la magie, aux choses occultes que Dieu condamne. Premièrement, si vous vous posez cette question, c'est que dans votre cœur, vous avez ce souci de plaire à Dieu et de ne pas être en abomination. Alors croyez que Dieu connaît les pensées de votre cœur puisqu'il sait tout et qu'il sait que vous voulez lui plaire. Croyez que Dieu sait que vous voulez lui plaire. Croyez qu'il est attentif à votre état de cœur. Croyez-le. Deuxièmement, demandez pardon pour l'offense que vous lui avez faite. Peut-être par ignorance. Paul dira « j'ai agi par ignorance et par incrédulité ». Pierre va prêcher et dit « je sais que c'est par ignorance que vous l'avez fait ». Peut-être c'était par ignorance, mais c'est quand même une offense à Dieu. Demandez pardon pour l'offense que vous lui avez faite en allant vers ses personnes ou vers ses croyances. Troisièmement, priez-le. Demandez-lui son secours pour être délivré de la dépendance et de l'influence de ses pratiques. Ok ? Croyez que Dieu voit votre cœur. Demandez pardon pour ce que vous avez fait et demandez du secours à Dieu. C'est aussi simple que ça. Et il vous pardonnera, il vous aidera sur le champ maintenant, ce matin. Il commencera son travail en vous à cause de Jésus. À cause de Jésus, de vous-même, de moi-même, je ne mérite pas le secours de Dieu. Si je peux être gracié, sauvé, délivré par Dieu, ce n'est que parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, nos péchés sur la croix, il a pris l'astrologie sur la croix, il a pris la voyance, le péché, l'offense à Dieu de toutes les idoles, il a pris tout ça, ça il est prêt à le pardonner parce qu'il l'a pris sur lui et il est mort à la croix aussi pour ça. S'il est mort pour les gros mots, Jésus, c'est marqué. S'il est mort pour le mensonge, s'il est mort pour le vol, il est aussi mort pour la divination, l'astrologie, toutes ces choses. Et parce qu'il est mort pour ça, parce qu'il a payé pour ce péché-là, alors Dieu peut le pardonner si on vient à Dieu au travers de Jésus par la foi en Jésus-Christ. Et ce qui est beau dans la Bible, c'est que Dieu donne toujours un verset pour bien conclure, pour bien finir. Dans Jean chapitre 18, prenez-le avec moi, Jean chapitre 18 et verset 4. Jean 18, 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, lui connaissait l'avenir, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et comme prophétie, comme personne avertie, Jésus était le meilleur. Parce qu'il était le plus digne, le plus saint sur toute la surface de la terre. Et il n'y en a eu avant lui personne comme lui, il n'y aura après lui personne comme lui. Jésus a vécu une vie exemplaire pour que son sacrifice puisse être agréé pour le pardon de nos péchés. Et Jésus, sachant ce qui devait lui arriver, est quand même allé sur la croix. Quand il a dit, mais qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, c'est moi. Juste après, il va dire, ne les embêtez pas les autres. C'est moi. Jésus, lui, il savait ce qui devait lui arriver. Mais il a continué quand même. Parce que dans son plan, dans sa venue sur la terre, comme l'a dit notre frère tout à l'heure à la Sainte-Seine, il avait pour projet ultime de sauver les hommes, de pardonner les hommes, de guérir les hommes. Et Jésus, même s'il savait, lui, qu'il devait passer par la croix, même s'il savait qu'il allait être crucifié, il savait aussi qu'il allait ressusciter. Et il a dit, moi j'y vais. Vous cherchez qui ? C'est moi ? Eh bien, regardez, je suis là. Je suis là. Quel amour. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous saviez que demain, il vous arriverait ça, qu'on vous emmènerait en prison, etc. Comme Paul, à des moments, et il a eu raison. Hein. Paul s'est échappé, dans un panier, par une muraille, pour ne pas être attrapé. Jésus, lui, son but, sa mission, c'était de nous sauver, c'était de nous pardonner, de nous racheter. L'astrologie, la voyance, met les gens sous le pouvoir de Satan. Jésus est mort pour payer une rançon, pour nous racheter du pouvoir de Satan et le mettre sous son règne, sous sa bénédiction, sous ses promesses, sous sa protection. Amen. Une voyance ne vous apportera jamais la paix. L'astrologie ne vous apportera jamais la paix. Il n'y a pas de solution dans ces choses. Si vous voulez devenir pauvre ou baisser l'argent de votre porte-monnaie, c'est la solution. Mais sans quoi ? Le vrai secours, il est auprès de l'Éternel. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Merci Père encore de nous parler ce matin. J'espère Seigneur et je prie pour que chacun de nous ayons compris que toutes ces choses, se confier dans les as, se confier dans son signe, se confier dans des hommes, ça ne vaut pas la peine et c'est dangereux. Seigneur, donne-nous de comprendre que tu désapprouves ces choses, que quelqu'un ne peut pas être béni s'il touche à ces choses. Et je crois qu'à tous ceux qui demandent pardon, à tous ceux qui se détachent de ces choses, il y a une bénédiction en réserve. Il y a une grâce en réserve. Il y a des promesses en réserve pour eux aussi. Alors merci Seigneur de délivrer tous ceux qui crieront à toi. De faire en sorte aussi que dans ton assemblée, personne ne touche aux démons, personne ne touche à la voyance, à l'astrologie, à toutes ces choses, mais que tous nous soyons saints pour toi. Qu'on comprenne ce verset qui dit « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Quel rapport y a-t-il entre Bélial et entre Christ? Quel rapport y a-t-il entre le monde et ton royaume? Merci Seigneur. Amen. Amen.